Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 21 mars 2023. Je vous donne les titres d'actualité. Nous allons commencer cette revue de presse avec l'espérance. Et je vous propose, avec Dom Paul Denisot, recteur du sanctuaire de Montlygon, un petit entretien. Peut-on espérer quand tout s'effondre ? L'entretien figure dans le magazine Chemin d'éternité numéro 315. Nous allons ensuite, avec le père Paul Dollier, transformer nos relations. Alors vous vous souvenez, l'année dernière, le père Paul Dollier intervenait exactement sous ce même intitulé d'émission, Transformer nos relations. Donc nous allons revisiter, à l'aide de Prier magazine numéro 450, comment vivre avec les autres sous le regard de Dieu. En portrait, nous irons à la rencontre de Laure Vialton, mère d'un enfant trisomique. Le témoignage figure dans Famille chrétienne, numéro 2357. En culture chrétienne, je vous présenterai deux livres. Le premier, La maison du sycomore, une aventure familiale à l'école des plus fragiles. Un livre coécrit par Patrick et Hélène Rougin-Baville, ainsi que Julie Chabou, donc aux éditions MAM. Et le dernier, C'est ton visage que je cherche, du frère Benoît Dubigeon, aux éditions Artege. Peut-on encore espérer quand tout s'effondre ? Crise climatique, guerre, incertitude économique, deuil, rupture, violence. Quand tout semble s'effondrer autour de nous, l'espérance nous est-elle d'un grand secours ? Et que faire quand la tentation du désespoir nous gagne ? Voici donc l'entretien du père Dom Paul Denisot, recteur du sanctuaire de Montlygon, qu'il a donné à Chemin d'éternité numéro 315. L'espérance n'est pas l'optimisme, qui est plutôt un trait de caractère positif. Elle n'est pas non plus l'espoir, qui est une passion, une réaction émotionnelle devant un bien attirant mais difficile à obtenir. Avec la foi et la charité, l'espérance est une des trois vertus théologales, c'est-à-dire donnée par Dieu. Comme pour tous les dons reçus de Dieu, il ne s'agit pas de rester passif, mais de coopérer avec la grâce. Par exemple, c'est à moi de mettre en acte le don de la charité et à moi de poser des actes d'espérance pour grandir dans l'espérance. Nous connaissons tous des situations difficiles. Je suis allée récemment en République démocratique du Congo, au Liban et en Syrie, nous dit Dom Paul Denisot. Face aux tensions de la guerre, aux pénuries, aux graves problèmes énergétiques, il y a de quoi être inquiet. Chez nous, la situation est apparemment moins grave. On ne meurt pas dans les rues comme à Calcutta et nous ne sommes pas directement menacés par des famines ou des catastrophes. Cependant, l'homme occidental consomme de plus en plus d'anxiolytiques. Les fractures sociales, la solitude sont une autre forme de pauvreté. Ici comme dans ces pays, l'espérance est un combat à mener. J'entendais récemment des jeunes, des générations Y et Z, exprimer leur peur du réchauffement climatique. Même si leurs craintes sont fondées, il me semble qu'elle cache plus profondément une peur de l'avenir en général. L'espérance chrétienne affirme que l'avenir appartient à Dieu. Mais y croyons-nous ou pas ? Croyons-nous que Dieu est le maître du temps et de l'histoire ? Pour espérer, on peut commencer par faire cet acte de foi. L'espérance s'appuie sur une deuxième dimension. La certitude que le Christ est là, dans ma vie, malgré toutes les épreuves que je traverse et qui troublent mon cœur. Il l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous ne sommes jamais seuls. Certaines vies sont apparemment des échecs, comme celle des martyrs du Japon crucifiés parce qu'ils ont refusé de renier leur foi en Jésus, ou encore comme celle de Maximilien Kolb donnant sa vie pour sauver un père de famille et mourant dans le bunker de la faim. Ou de manière imminente, comme celle de Jésus, crucifié alors qu'il avait suscité tant d'espoir. À travers ces exemples et dans nos propres vies, l'espérance consiste à écouter le Seigneur nous dire « Tu vas vivre cette épreuve avec moi et tu vas découvrir que c'est dans l'échec que je gagne, que je transforme le monde et que je répands mon amour sur le monde. Cela demande un acte de foi permanent. Nous pouvons nous inspirer de ceux qui ont vécu cette vertu. La Vierge Marie, par exemple, qui voit son fils mourir en croix et qui consent. Le projet de Dieu lui échappe, mais elle s'en remet au Seigneur. Et toutes ces figures bibliques qui sont autant d'exemples à imiter. Ici, à Montlignon, nous rencontrons des champions d'espérance. Malgré tous les drames qu'ils traversent, ils nous disent « Entre l'abîme et l'espérance, nous avons choisi l'espérance ». En les regardant, nous pouvons attester que dans leur épreuve, Dieu était là. Dans nos vies, nous avons tous apporté la croix. Jésus nous n'a jamais vendu la réussite. Il nous a prévenus que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En regardant notre vie d'un point de vue trop humain, nous pourrions peut-être dire qu'elle est un échec. Mais en regardant nos épreuves à la lumière de la croix du Christ, nous pouvons discerner très mystérieusement qu'elles sont source d'amour et de vie. C'était l'entretien avec Dom Paul Denisot, recteur du sanctuaire de Montlignon, sur l'article « Peut-on encore espérer quand tout s'effondre ?» Vous pourrez retrouver cet entretien dans « Chemin d'éternité » numéro 315. Nous allons maintenant retrouver le Père Paul Daulier, donc à travers un article qu'il a donné à Prier Magazine numéro 450 sur « Transformer nos relations ». Donc ça va vous rappeler l'émission qu'il donnait l'année dernière. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, disait Jésus. Et Tertullien témoignait qu'on disait des premiers chrétiens « Voyez comme ils s'aiment ». La communion d'amour entre les baptisés n'est pas une dimension optionnelle de la vie chrétienne. Elle est directement reliée à la communion eucharistique. C'est en la cultivant que les chrétiens font l'Église et diffusent le royaume dans le monde. Pourtant, les paroisses ou les familles, comme tout milieu humain, souffrent souvent de divisions vécues de façon d'autant plus douloureuse qu'elles sont en contradiction avec le message du Christ. Fort de ce constat, Paul Daulier a mis au point un parcours pour y remédier qui insiste en particulier sur l'importance de veiller à l'usage de sa parole. Voici quelques points de sa méthode pour faire l'apprentissage de relations saines, gratuites et désintéressées. Alors, premier point, la prise de conscience. Le père Paul Daulier nous dit « Quand j'ai vu tout le bien que procure un compliment adressé en public à mes vicaires, j'ai mieux compris que les paroles valorisantes produisent de la vie et de la lumière. Elles éclairent nos relations. » Longtemps taiseux, il a décidé d'interroger sa manière d'entrer en relation pour insuffler davantage de confiance et de paix autour de lui. Dans cette perspective, la lecture de l'épître de Saint Jacques, qui aborde la question des relations humaines, a été un électrochoc. L'apôtre s'y adresse à une communauté en difficulté. C'est une des lettres les plus pratiques et les plus concises de la Bible, nous dit le père Paul Daulier. Jacques dit les choses. Elle a selon lui un petit côté pape François. Alors, deuxième point, veillez à l'usage de sa langue. La parole est par excellence l'instrument de la charité fraternelle. De même que le Père se dévoile dans son Verbe, notre cœur s'exprime dans nos paroles. À ce sujet, la lettre de Jacques emploie six comparaisons. La langue est tour à tour présentée comme mort, gouvernail, feu, animal venimeux, source et figuier, pour signifier la façon dont nos paroles peuvent diriger, détruire ou bénir. Aimer, c'est faire exister l'autre par notre parole. L'absence de parole peut témoigner d'un déficit de relation. Il faut ensuite examiner sa conduite. Voilà quelques questions que nous pouvons nous poser pour tenter de progresser en la matière. Ai-je conscience du pouvoir étonnant de mes paroles sur la vie des autres ? Dans quelle situation ai-je le plus de difficultés à tenir ma langue ? Suis-je capable de dire une parole de vérité à quelqu'un ou suis-je dans le murmure ? Ai-je souci des conditions à réunir pour que ma parole soit entendue ? Ai-je l'habitude de dire des paroles valorisantes, de reconnaissance ou de gratitude à mon entourage? Ai-je l'habitude d'en recevoir? Autre point important, bénir l'autre. La bénédiction constate le bienfait de Dieu et le provoque. C'est la principale fonction de la langue. Il faut donc trouver l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le talent d'un proche ou d'un collaborateur. Si je dis à ce dernier « Quelle bénédiction de travailler avec toi, tu es consciencieux et clairvoyant !» Je constate ses qualités et en les lui reflétant, je lui permets d'en prendre conscience pour les exercer davantage. Cette bénédiction est l'inverse de la parole calomnieuse, médisante ou du silence équivoque. Il n'y a rien de plus venimeux dans une équipe qu'une personne qui se vante de neutralité dans un projet et qui accompagne son silence d'un « moi, je ne critique jamais » ou « je ne tiens pas à donner mon avis » avec un sourire qui en dit long. Si dire du bien est trop difficile, aimer, c'est au moins parler avec bienveillance pour que notre silence ne soit pas mal interprété. Et en parlant du silence, donc dernier point de méthode, puisez dans celui-ci. La tradition biblique sait que la parole juste jaillit toujours du silence. Lorsque le lieu où sont fabriquées nos paroles est le silence du cœur, quelle qualité de relation et quel cadeau offert à l'autre ? Il faut donc se demander, si je cultive un recueillement capable de charger mes paroles d'un poids d'amour ou encore si je veille sur ma prière quotidienne pour que me soit donné le langage des disciples qui soutient et encourage. Je suis touchée quand j'interroge quelqu'un de le voir prendre du temps avant de me répondre, comme s'il cherchait en lui, tel un sourcier, la parole la plus adaptée à m'offrir, nous dit le père Paul Doulier. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Aimer mon prochain, c'est parler de manière authentique. Oser la correction fraternelle et verbaliser nos conflits. Aimer, c'est au fond un vrai travail d'écoute. Aux yeux du père Paul Doulier, s'aimer correctement les uns les autres est une mission de première nécessité. C'était l'article du père Paul Doulier dans Prier Magazine sur transformer nos relations. Nous allons maintenant à la rencontre de Laure Vialton, qui est maman de Simon, porteur de trisomie 21. Elle témoigne dans un livre puissant, qui va être évoqué dans son témoignage, elle va témoigner donc de son amour inconditionnel pour son enfant, mais également de sa colère. Le témoignage est paru dans Famille chrétienne, numéro 2357. En temps normal, déjà, retracer en 3500 caractères l'itinéraire d'une personne relève du casse-tête chinois. Mais face à celui de Laure Vialton, le journaliste est proche du refus d'obstacles. Elle en rit, sûre que sa vie, celle de son mari et de leurs trois enfants installés à Grenoble, donnerait matière à une série Netflix. Le professeur de lettres modernes de 55 ans a sans surprise choisi l'écrit pour raconter Simon, leur deuxième enfant, porteur de trisomie 21. Les mots et les livres sont mon pays, nous dit Laure. Et comme les personnes trisomiques ne peuvent se raconter, Laure s'est donné pour mission d'être leur porte-parole le temps d'une trentaine de chapitres joliment intitulés « Simon et merveille ». L'ouvrage retrace le parcours fait de haut et de bas d'une mère bien décidée à faire une place à son fils différent dans une société normée. Un chemin chaotique. La colère suinte entre les lignes, listant froidement les mots qui tuent, du collège médical ou dénonçant la rigidité jusqu'à la bêtise de certains représentants du monde éducatif. Blessés par essence, les parents d'enfants handicapés pardonnent difficilement la maladresse de leurs interlocuteurs, nous dit-elle. Devant la trisomie de Simon, Laure avoue pourtant ne pas s'être révoltée. En partie grâce à Sébastien, un cousin un peu plus jeune qu'elle, souffrant du même handicap. Elle nous dit « Connaissant Sébastien, je savais qu'une vie heureuse était possible pour mon fils. À sa mesure, certes, mais pas au rabais. « Je ne suis pas une tiède », poursuit-elle. Ainsi, elle vomit l'attitude incohérente d'un monde qui applaudit des deux mains la réussite des cafés joyeux, mais continue d'éliminer 96% des enfants trisomiques à naître. La mère de famille assume de parler d'un eugénisme d'État, en évoquant le diagnostic prénatal et ses conséquences. Nous sommes les bourreaux d'une société chargée d'évacuer ce qu'elle ne souhaite pas avoir comme être humain, reprend-elle dans son livre, citant le professeur Israël Nizan, célèbre gynécologue obstétricien. La vulnérabilité est au cœur de l'humanité. Son accueil est pour moi une réponse potentielle aux maux de la société, assène celle qui s'est toujours sentie différente des autres. Laure a grandi dans la foi chrétienne, fréquentant notamment le mouvement eucharistique des jeunes. Le cercle familial compte une ancienne supérieure de congrégation et même un évêque en activité. « Mes valeurs sont celles du Christ », affirme-t-elle, tout en se défiant de l'Église. Pour l'hypersensible Laure, les horreurs de certains ecclésiastiques récemment rendus publics ont discrédité l'institution. Là encore, la colère gronde. Il n'y a pas pire amour qu'un amour déçu. Dans sa quête spirituelle, empruntant de nombreux chemins, elle a néanmoins conservé un lien particulier avec la Vierge Marie. Son havre de paix, qu'elle prie aux heures heureuses ou sombres. Son acceptation inconditionnelle de la volonté de Dieu, son discernement dans la manière d'accompagner un destin lumineux et tragique m'impressionne depuis toujours. C'était le témoignage de Laure Vialton, maman de Simon, porteur de trisomie 21, qu'elle a relaté donc dans un livre intitulé « Simon et merveille ». Nous passons maintenant à la culture chrétienne, où je vais vous présenter un premier livre donc paru aux éditions MAM, intitulé « La maison du sycomore, une aventure familiale à l'école des plus fragiles », un livre écrit par Patrick et Hélène Rougevin-Baville ainsi que Julie Chaboux. En accueillant leur neveu Louis-Marie, porteur de handicap dans leur maison, Patrick et Hélène ne se doutaient pas que leur vie allait prendre un nouveau tournant. Aujourd'hui, une douzaine de personnes fragiles vivent autour d'eux dans une communauté entièrement tournée sur la fraternité, la vie spirituelle et le travail. Au fil des pages de cet ouvrage, les auteurs, assistés de la plume de Julie Chaboux, nous font partager un rythme de prière, le souci d'une écoute de chaque instant et d'un accueil inconditionnel. L'occasion, pour le lecteur, de s'immerger dans l'aventure d'un couple et d'une famille qui a choisi de s'ouvrir à la différence et à la fragilité. La maison du sycomore, une aventure familiale à l'école des plus fragiles, de Patrick et Hélène Rougevin-Baville et de Julie Chaboux aux éditions MAM. Et pour terminer cette revue de presse, je vais vous présenter un livre paru aux éditions Artege intitulé « C'est ton visage que je cherche » du frère Benoît Dubigeon, qui est aumônier de prison et qui, dans ce livre, nous emmène à la rencontre de notre prison intérieure. Alors, je vais vous lire un extrait intitulé « Vivre l'impossible pardon ». Le pardon est si dur à donner, si difficile à recevoir. Tant de conflits et bien peu de réconciliation. Et pourtant, sans pardon, la rancœur et le ressentiment risquent de boucler sur soi-même et moi-même et de me laisser prisonnier, moi comme l'autre, de ce pardon qui n'est pas encore engagé. Demander pardon ou accorder mon pardon a besoin de rites. Une rencontre, une médiation, les reproches exprimés, les torts estimés, un repas, un sacrement. Il a d'abord besoin que justice se fasse. Pas de pardon sans justice. En tout état de cause, il a besoin parfois de beaucoup de temps pour que chacun retrouve sa part, son territoire, son identité. Ce n'est que lorsque nous retrouvons cette part que nous pouvons alors pardonner. Si la culpabilité est une première étape nécessaire, m'évitant ainsi le déni, le pardon me libère de la culpabilité. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne s'est rien passé. Dieu prend au sérieux mon existence. Mes actes ont eu des conséquences. faire la pénitence qui m'est demandée ne gommera pas le passé, mais exprimera par des actes mon désir de réparer, si c'est possible, et de reconstruire ma vie relationnelle avec la grâce de Dieu sur laquelle je puis compter inconditionnellement. Ce sacrement est aussi un signe pour reprendre à nouveau le chemin vers les autres, vers moi-même, là aussi est le chemin vers Dieu. Est-ce une utopie ? C'est plutôt une mission. Que je puisse transformer le pardon qui m'est donné sans condition en acte de bonté et de miséricorde pour ceux qui m'ont fait du mal, là est la source de la libération. J'apprends, grâce à l'Évangile, à n'avoir aucune haine contre eux. N'avoir de haine pour personne, même pour ceux-là qui font tant de mal, engendre une force extraordinaire. J'ai appris à l'expérimenter. Cela me permet de rester vraiment libre par rapport à ceux qui m'ont fait du mal, de refuser l'emprise qu'ils ont tenté d'exercer sur ma personne, de m'en libérer à tout le moins, de garder en moi la vraie paix. Cela nécessite une grande force morale qui me permet d'assumer de nombreuses solitudes et même d'aimer la solitude. Vivre les épreuves, aussi éprouvantes soient-elles, dans l'assurance que non seulement mon identité n'est pas détruite, mais que je suis assurée de la présence dans ma vie du Dieu vainqueur, de toutes les forces mortifères et de la mort elle-même, c'est vivre la joie parfaite. Alors personne ne pourra plus ni me manipuler, ni m'emprisonner dans ses propres liens mortifères, ni me détruire. Rien ni personne, ni aucune épreuve nouvelle ne pourra me ravir cette vraie paix, cette vraie joie. Un don plus fort que tout. C'est le don de la joie parfaite. Heureux suis-je de le vivre. C'est de Dieu, c'est pour Dieu et c'est pour servir autrui. C'était un extrait du livre du frère Benoît Dubigeon, « C'est ton visage que je cherche ». L'extrait en question s'intitule « Vivre l'impossible, pardon ».
Chers auditeurs, c'était notre émission La Revue de Presse. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.